Sur la soupe, mais quand Jean-Pierre m'a parlé de porter du fruit, il y a deux idées qui me sont venues, et c'est ces deux idées que je voudrais partager avec vous ce matin. Alors, quand on parle du fruit, on parle de quel fruit? Alors, il ne faut pas hésiter à interagir avec moi, hein, j'ai quelques petites questions. Quand on parle du fruit, on parle de quel fruit? C'est le fruit de quoi on dit? Fruit de l'esprit, exact, ouais. Et l'esprit, c'est quel esprit? L'esprit saint, Saint-Esprit, ouais, l'esprit de Dieu. À quoi ça sert l'esprit dans un être humain? Qu'est-ce que ça sert à quoi l'esprit? L'esprit, notre esprit, à quoi il nous sert? Ouais, raisonner, ouais. Qu'est-ce qu'il fait d'autre encore notre esprit? Ouais, faire nos choix. Discerner le bien du mal, ouais. Ouais. L'esprit, enfin, si on peut dire qu'il y a notre corps qui, c'est nos muscles, c'est notre chair, etc., le sang qui circule. Et l'esprit, c'est celui qui va diriger notre corps. Donc, si on n'a pas d'esprit, on peut pas agir. Donc, l'esprit, c'est vraiment la chose qui va diriger nos vies, qui va faire nos choix, qui va nous permettre de réfléchir. Et donc, quand on dit que les fruits de l'esprit, c'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui va diriger nos actions, puisque c'est ça à quoi ça sert, hein, l'esprit. Donc pour que nous puissions porter du fruit, il faut que l'Esprit Saint, dont les fruits viennent, si vous voulez, il dirige notre vie. C'est celui qui dirige nos actions. Alors, il y a un petit verset. Alors, ah oui, j'avais prévu une petite image d'un fruit de l'esprit avec tous les fruits, mais vous les avez déjà cités tout à l'heure, donc je pense que c'est de nouveau clair dans vos têtes. Alors, un verset de Éphésiens 5, verset 18, qui est le prochain slide, ouais, nickel, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Ça, c'est bien de le rappeler, mais bon, je pense que c'est clair. Il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Alors, soyez remplis, je ne suis pas du tout spécialiste hébreu et tous ces trucs-là, mais j'ai lu que c'était en présent continu. On pourrait le traduire par « soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois et après c'est terminé, mais c'est un processus qu'on fait tout le temps, tout au long de sa vie. Donc c'est une expérience constante, journalière, voilà, on doit être constamment rempli du Saint-Esprit. Alors il y aurait évidemment mille choses à dire sur ce verset. Moi je voudrais simplement vous laisser une image. Moi je vois notre esprit en fait comme un récipient, d'accord, on est un bol ou comme ce que vous voulez. Et il est fini, parce que l'esprit de Dieu il est infini, mais nous on a un esprit, un être humain qui est fini. Donc ça veut dire que ce qu'il y a dedans c'est fini. Donc pour faire de la place au Saint-Esprit dans nos vies, il faut qu'il y ait autre chose qui sorte. Parce que notre esprit, il est fini. Donc, si je veux faire plus de place au Saint-Esprit dans ma vie, il y a certaines choses qui doivent sortir. Et il y a Jean-Baptiste qui a dit, voilà, il faut qu'il grandisse en parlant de Jésus et que je diminue. Alors, plusieurs versets qui parlent de ça. Si tu veux bien les afficher, Thomas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Un verset de Matthieu 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Et 1 Corinthiens 6, verset 12. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas regarder de films, qu'il ne faut pas regarder des séries, jouer à des jeux vidéo, lire, enfin tout ce que vous pouvez passer du temps de loisir, et que c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est lire sa Bible et prier tout le temps, et c'est comme ça que vous serez rempli du Saint-Esprit. Mais si je suis honnête avec moi, quand je regarde mes 24 heures de vie, je remarque qu'il y a des choses de mon temps que j'utilise, des choses qui font que mon récipient là, il se remplit plutôt de choses de Dieu, et des choses où c'est plutôt l'inverse. Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui lui plaît à sa propre nature, il récolte. La récolte qu'il en aura sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en aura sera la vie éternelle. Galates 5, 22. Juste un petit peu après, Galates 6, versets 8 et Galates 6, versets 7 et 8. Alors, je ne suis pas en train de dire que en faisant quoi que ce soit de bien, que ce soit prier, lire la Bible, on gagnerait le droit d'avoir plus de Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Si vous remarquez dans le verset qu'on a lu au début de Éphésiens 5, verset 18, c'est dit soyez remplis du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui nous remplit. C'est pas écrit remplissez-vous du Saint-Esprit. D'accord ? C'est soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est bien Dieu qui donne le Saint-Esprit. Mais de manière très pragmatique, pour que le Saint-Esprit puisse diriger nos vies et que nous portions du fruit, puisque c'est le sujet aussi dont on se parle cet après-midi, il faut lui faire de la place. Si je ne fais pas de place au Saint-Esprit dans ma vie, ben je ne peux pas m'étonner que le Saint-Esprit ne produise pas ses fruits en moi. Donc à chacun de nous de réfléchir honnêtement, face à Dieu aussi, quelle est la place que je fais au Saint-Esprit dans ma vie ? Et là où je devrais faire un peu de ménage pour que dans ce récipient-là, ben, je lui laisse toujours plus de place. Première idée, voilà, notre esprit c'est un récipient. Si on veut porter des fruits, et des fruits de l'esprit, ben, il faut laisser de la place à l'esprit dans ce récipient-là. Alors, la deuxième idée que je voudrais vous laisser, c'est, donc moi, dans mon travail, on utilise une règle qui s'appelle la règle des 70-20-10. Alors, 70%, 20%, 10%. Alors, quand quelqu'un veut apprendre une nouvelle compétence, on construit avec lui quelque chose pour qu'il apprenne cette nouvelle compétence sur cette règle-là, 70%, 20%, 10%. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? Pour apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour apprendre quelque chose ?
De le vouloir.
De le vouloir, ok, ouais. On suppose que s'il est dans cette démarche-là, c'est qu'il le veut. Ouais. Ouais, théorie, pratique, ouais. Ok. Et encore, qu'est-ce qu'on pourrait. Donc, ça fait partie des deux des trois qui sont là. Et une dernière chose. Pardon ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Apprendre des autres. Apprendre des autres. Alors, à votre avis, comment ça se répartit dans ces 70%, 20%, 10%? Pardon, vas-y. Ouais, c'est donc la pratique, ouais. 70% de pratique, ouais. Ensuite, 20 théories, ouais. Et donc 10% de 20% de, pardon, en apprenant des autres, et 10% d'enseignement théorique, si tu veux bien les afficher, Thomas. 70% de pratique, 20% en apprenant des autres, et 10% en étudiant. Alors souvent, on veut absolument avoir plein de formations, parce qu'on dit que ça va nous aider beaucoup à pouvoir maîtriser une compétence. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, vous n'avez jamais géré de projet. Ce n'est pas forcément facile à faire. Donc, si vous bossez chez moi, dans mon entreprise, on va vous faire un cours pour savoir comment vous devez gérer un projet, avec voilà, la théorie, comment ça se passe. Après, on va vous dire, Jean-Pierre, c'est un très bon gestionnaire de projet. Il a fait déjà ça plein de fois. Donc, va discuter avec lui. Et il donnera peut-être des petits trucs. Et puis, il va peut-être te suivre et t'encourager. Et après, on va dire, ça c'est bien. Mais maintenant, on va te donner trois projets. D'accord ? Que tu vas faire, et c'est en faisant ces projets-là que tu vas apprendre à faire des projets. Personnellement, j'ai un problème un peu avec les messages, comme on fait là. Vous allez me dire c'est un peu bizarre puisque j'en fais. Et parce que les messages, ça représente 10% de ce que j'ai besoin en fait. Et ça me frustre parce que pour progresser dans ma vie chrétienne, si je suis cette loi 70-20-10, j'ai pas besoin d'enseignement théorique. Enfin, j'ai pas besoin que d'enseignement théorique. C'est que 10% de ce que j'ai besoin. J'ai besoin de le mettre en pratique et j'ai besoin d'être encouragé par d'autres. Et j'aime bien ce thème de porter du fruit parce qu'il nous rappelle que la vie chrétienne, c'est pas le dimanche après-midi. C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ce qu'on vit tous les jours dans notre semaine. Et c'est tous les 9 messages qu'on a eus là. Ils font pas de différence dans notre vie. Si c'est que du 10%, alors ça sert à rien. L'enseignement qu'on reçoit, c'est pas fait pour être juste écouté, c'est fait pour être mis en pratique. Et j'ai quelque chose que j'aime bien dire, et ma femme dira que je répète tout le temps. Ce qui me dérange dans la Bible, c'est pas ce que je comprends pas. C'est ce que je comprends. Ce qui me dérange dans la Bible, c'est pas ce que je comprends pas. Il y a des choses des fois qu'on comprend pas parce que c'est un peu compliqué. Mais à la limite, ça me dérange pas. Mais déjà, si j'appliquais ce que je comprenais, parce que finalement, il y a plein de choses. Moi, ça fait 20 ans quasiment que je suis chrétien. Si j'appliquais ne serait-ce que 1% des je ne sais pas combien de messages que j'ai entendus depuis 20 ans, déjà, ça ferait une grande différence dans ma vie. Ce qui me dérange dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, c'est ce que je comprends et comment je peux le mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre moyen d'apprendre la patience, d'apprendre l'amour, d'apprendre la joie que de le mettre en pratique. Et la mise en pratique, c'est un thème qui est très récurrent dans l'Évangile. je cite quelques versets. Matthieu 21, versets 28 à 31, s'il est normalement aussi affiché. Jésus dit encore, « Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Un homme a deux fils. Il dit au premier, « Mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Le fils répond, « Je ne veux pas. » Plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit la même chose au deuxième fils. Le fils répond, « Oui, bien sûr, père, j'y vais. » Mais il n'y va pas. Lequel des deux fils a fait la volonté de son père ? Je pense que la question, la réponse, elle est évidente. C'est le premier fils. Matthieu 7, verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est ce thème d'être disciple et de porter du fruit, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup ces derniers temps et on en a discuté avec Céline. Et elle me disait que notre vie chrétienne, c'est un ensemble de petits choix qu'on fait par la grâce de Dieu qui vit en nous. Le choix de ne pas s'énerver avec nos enfants. Je pense que les parents qui sont ici doivent savoir un peu ce que c'est. Parce qu'on nous dit, voilà, comment être patient ? On nous a donné les enfants pour l'apprendre. Le choix de pardonner, le choix d'être bienveillant envers quelqu'un que je rencontre pour la première fois, c'est plein de petites choses qui sont devant vous et qui vous permettent d'être dans le 70%, de pratiquer ces fruits de l'esprit. Et c'est en se mettant au service de Dieu quand on va arriver au bout de nos capacités humaines, de nos forces humaines, et là on pourra expérimenter la présence de l'Esprit en Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous et les fruits aussi qu'il va porter. Alors j'avais prévu de ne pas le dire, mais finalement je vais quand même le dire. Avec Céline, on a eu un moment assez compliqué dans notre histoire avant qu'on se fiance. On a discuté très longtemps et moi je pensais que c'était la fin de notre histoire. Et vraiment, à un moment de cette discussion, on marchait dans les rues de Nancy la nuit. Et j'ai vraiment senti comme Dieu qui disait, mais là il faut que tu l'aimes de manière inconditionnelle. Parce que quand on s'aime et qu'on est amoureux et qu'on est jeune, il y a beaucoup le sentiment, etc. Et on est jeune, on est encore jeune, 30 ans, c'est bien, c'est jeune. Et à un moment, voilà, j'ai vraiment senti Dieu qui m'a dit, voilà, là, il faut que tu l'aimes en fait inconditionnellement. Malgré ce qu'elle peut te dire, qu'il veut peut-être te blesser, il faut que tu l'aimes inconditionnellement. Et ça, c'est quelque chose. Et du coup, j'ai fait le choix à ce moment-là de ne pas être sur la défensive et de ne pas essayer de me protéger. Me dire, ok, mais je vais apprendre à aimer parce que si je veux une relation qui dure, il faut que j'apprenne cet amour inconditionnel. Et c'est comme ça que Dieu nous forme. C'est par ces choix-là qu'on va devoir faire au quotidien, avec nos enfants, avec nos amis, dans notre travail, que Dieu il va nous forger et ces différents fruits de l'esprit, ils vont prendre la consistance en nous. J'ai pas retrouvé l'espèce de poème qui dit quelque chose comme ça. J'ai demandé à Dieu de l'amour, il m'a donné des gens à aimer. J'ai demandé à Dieu de la joie et de la paix, et il m'a donné des situations difficiles pour les trouver en lui. J'ai demandé à Dieu la patience, et il m'a donné des enfants. Et on voit que l'évangile, que Jésus, dans les évangiles, il a appliqué cette méthode des 70-20. Alors évidemment, les enseignements théoriques qu'on connaît, les versets de Matthieu 6, l'enseignement sur la montagne, etc. Et puis après, il a aussi donné l'exemple, Jésus. Un fameux épisode, il a lavé les pieds de ses disciples. Voilà, il leur a montré l'exemple. Mais pendant les 3 ans, où déjà ça a duré que 3 ans sur toute la vie, après les disciples étaient tout seuls à mettre en pratique, tout seuls, il y avait le Saint-Esprit en eux, heureusement. Et aussi même pendant le ministère de Jésus, ça c'est un passage que je trouve dans Matthieu 10, Jésus a envoyé ses disciples. Donc dans le temps de formation des 3 ans là, il les a envoyés pour qu'ils puissent annoncer la bonne nouvelle du royaume et donc se jeter à l'eau. Donc Jésus, il n'était pas dans les discours de philosophes grecs. C'était pas une école où on pensait à des choses vraiment très compliquées et où on écrivait des livres et des choses théoriques sur les visions du monde, etc. Pas du tout. Jésus, c'était quelqu'un qui a donné un enseignement très pratique et c'était vraiment l'objectif que ce soit vécu par les personnes qui l'accompagnaient. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre réflexion d'église sur ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me travaille beaucoup. C'est comment on fait le lien entre les 10% qu'on vit maintenant là et les 70% de pratique. Et les 20% aussi. comment on peut mettre en place, j'en sais rien, comment on peut l'appeler, un mentoring, discipula, groupe de croissance, groupe de maison, ce que vous voulez, pour qu'on se retrouve ensemble pour faire ce 20%, pour s'encourager à vivre cette mise en pratique, pour se stimuler ensemble à porter du fruit. Et où on fait ce lien entre voilà, tous ces jours-là, on doit faire ce choix de la patience, on doit faire ce choix de l'amour, on doit faire ce choix de la joie parce que c'est difficile. Et où on peut le partager avec nos frères et sœurs et s'encourager à le vivre. Comment, en tant qu'Église, on ne reste pas au stade d'échange d'idées, voilà, c'est bien, on se parle dit que la patience, c'est ça, mais on descend dans l'arène aussi de ce monde qui a besoin de ces fruits de l'esprit, qui sont tellement différents de ce que le monde pourrait proposer, et on peut faire une différence dans ce monde. Voilà les deux thèmes que je voulais partager. Voilà, notre esprit, c'est un récipient avec quoi on le remplit. Et pour apprendre, pour développer les fruits de l'esprit, ce n'est pas en écoutant ce que je vous dis que vous allez grandir. C'est quand on va pouvoir le mettre en pratique que c'est là que ça va prendre du sens. Et je vais juste terminer par quand même un petit point qui me semble important de préciser par rapport à porter du fruit. Il faut savoir garder le bon équilibre entre la grâce et la discipline. Alors c'est un sujet que j'ai beaucoup traité dans l'église à Sarrebourg. Donc si ça vous intéresse, je pourrais revenir pour vous en parler. Mais pour moi, c'est vraiment important. Tout ce qui est bon, donc tous les fruits de l'esprit, ça vient de Dieu. Et c'est un cadeau qui nous fait par grâce. Il n'y a rien de ce qu'on peut faire, de discipline, etc., qui nous permet de le mériter. Et Dieu, il ne nous aimera pas moins si on alors j'ai appris que faillissons, ça n'existe pas. Hein, Donc, si nous avons failli à démontrer les fruits de l'esprit, il ne va pas moins nous aimer si on manque de patience ou si on manque d'amour. Voilà, toutes ces choses-là, c'est par grâce qu'on les reçoit. Et si on n'arrive pas à le faire, Dieu ne va pas moins nous aimer. Mais il ne reste pas moins vrai que des fois, il faut quand même se poser un peu la question de ce qu'on fait de nos vies et faire un peu de ménage. Et se reposer la question de la consécration, c'est-à-dire voilà, à quel point j'ai donné ma vie à Dieu, à quel point il a la première place et à quel point ça fait une différence dans mon quotidien. Et pas seulement le dimanche matin. Le récipient, avec quoi on le remplit, les fruits de l'esprit, c'est bien d'écouter ce que Jean-Pierre vous raconte, ce que je vous raconte, mais ce qui est le plus important, c'est de le mettre en pratique. Et vraiment, moi, l'encouragement que je voudrais vous laisser pour votre église, c'est comment vous arrivez à vous encourager ensemble à le vivre. Parce qu'on a besoin de ce 20%. On a besoin de s'encourager, de se parler de nos vrais problèmes du quotidien et de ce qu'on vit et de comment on met ces fruits de l'esprit en pratique.